Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant que je prenais 2 jours de repos, Wall Street a décidé que la crise était finie, que l'inflation n'existait plus, que Trump était un génie économique incompris et que Powell pouvait largement retourner faire du macramé. La VIX s'est effondrée, le bull market est relancé, Nvidia qui flirte avec les étoiles et les tarifs douaniers. C'est juste un mauvais souvenir du début du mois d'avril. Sauf que voilà, quand le marché n'a plus peur de rien, c'est précisément là que ça devient un tout petit peu flippant. Oui, parce que derrière le tapis, la vente en Arabie Saoudite et les tweets en majuscules du président américain, on a toujours une inflation planquée dans les coins, des boîtes qui retirent leurs prévisions parce qu'ils n'ont aucune visibilité et une Fed qui, elle, refuse de valider la monstre Fed qu'on est en train de vivre. Alors, euphorie légitime ou grand moment de déni collectif, c'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. Nous sommes le 14 mai 2025, bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, et une chose est certaine, définitive et officielle, chaque fois que je m'absente ne serait-ce que 2 jours, c'est le bordel total. Bon, au moins cette fois, c'est dans le bon sens, mais quand même. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On est donc tous d'accord qu'il n'y a strictement rien de nouveau dans cette histoire de guerre tarifaire, à part que les chiffres complètement lunaires annoncés il y a quelques semaines, 145% côté US, 125% côté Chine, ont été temporairement remis au frigo pour 90 jours. Il en reste 88 pour ceux qui comptent. Et Trump a déjà prévenu, s'il n'y a pas de deal d'ici là, il ne fera aucun cadeau. Le souci, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment ce que serait un deal satisfaisant à ses yeux, mais malgré ça, le marché, lui, est en extase simplement parce que les Américains et les Chinois se parlent. Et selon Trump lui-même, ces discussions se passent mais mieux qu'avec les Européens. Un petit tacle gratuit juste au passage, comme il les aime. Comme lors du moratoire d'il y a un mois, les marchés s'emballent et nous voilà à nouveau au-dessus des niveaux d'avant le fameux Liberation Day qui avait foutu la panique et fait exploser la volatilité et donner des sueurs froides à tous ceux qui ont un deuxième pilier, un troisième pilier ou un quatrième pilier. Mais au fond, qu'est-ce qui a réellement changé sur les tarifs? Est-ce qu'il y a eu un vrai tournant depuis que Trump est revenu au pouvoir? Objectivement, non. À part quelques secousses dans l'automobile européenne et 2-3 impacts visibles, pas de révolution. Le seul changement notable, c'est que les entreprises, dont le résultat du Q1 2025, ont été quasiment unanimes pour dire qu'elles n'avaient aucune visibilité à cause de cette instabilité douanière. Voilà donc le vrai héritage des décisions de Trump jusqu'à maintenant. Alors oui, les analystes nous répètent qu'il est trop tôt pour mesurer l'impact. Et oui, on nous dit qu'il faudra attendre le Q2 pour y voir plus clair. Mais une chose est sûre, les attentes du Q2 ont déjà été revues à la baisse. Et au vu des contrats signés hier en Arabie Saoudite, certaines boîtes vont les pulvériser les doigts dans le nez. Spoiler alert, NVDA. C'est du moins ce que suggère en tout cas l'attitude actuelle des marchés mondiaux, à condition évidemment de croire que ces marchés ont encore une once de logique dans leur fonctionnement, et franchement, plus le temps passe, plus j'en doute. Quand Trump a été élu, une bonne partie des experts en économie nous expliquaient calmement que ces baisses d'impôts massives et ces tarifs douaniers en mode bulldozer n'allaient pas vraiment dérégler l'inflation. L'idée générale, c'était pas de panique et tout est sous contrôle. Sauf que dès que la fameuse mèche orange a posé le pied dans le bureau ovale, on a senti un petit courant d'air qui disait « Et en fait, que se passerait-il si les tarifs douaniers ravivaient l'inflation ?» Alors depuis, on navigue entre doutes, chiffres ajustés et lectures à géométrie variable. Et hier, mon grand copain du moment, le Bureau of Labor Statistics, le BLS, a remis une pièce dans la machine, CPI à 2,3%, légèrement en dessous des attentes qui étaient de 2,4%. Le chiffre le plus bas depuis février 2021, de quoi faire sauter un bouchon de champagne. Peut-être pour Trump. Lui, il a déjà sabré et profite de l'occasion pour atomiser Powell une fois de plus sur ses taux trop élevés. Mais soyons clairs, le core CPI, lui, reste à 2,8%. Et derrière cette petite accalmie se planque une grenade dégoupillée qu'on connaît bien, les tarifs douaniers. Alors pour l'instant, il ne se voit pas encore dans les prix, ce qui est normal. Ça vient à peine de rentrer dans le pipeline. Et comme toujours, on nous sort le bon vieux refrain « Attendez encore un peu ». Vous verrez plus tard. Alors oui, on peut patienter, mais pendant ce temps, les loyers montent, plus 0,3%, l'assurance auto explose, et les œufs, alors eux, ils ont chuté de 12%, mais ils restent quand même à plus 49% sur un an. Oui, 49%. Même après la glissade, là, ça pique toujours un petit peu. Et puis Trump, lui, a fait une pause de 90 jours avec la Chine, mais il n'a rien lâché sur le reste. Résultat, la Fed reste droite dans ses bottes, les taux ne bougent pas, et les marchés n'espèrent plus de baisse de taux avant septembre, selon les derniers sondages. Et la vraie question du jour, c'est est-ce qu'on maîtrise enfin l'inflation ou est-ce qu'on est juste en train de repousser l'échéance? Parce que oui, l'inflation recule peut-être en apparence, mais dans les faits, la vie coûte toujours entre 20 et 30% plus cher qu'il y a 5 ans. Et sincèrement, est-ce que vos salaires, ils ont pris 30% depuis 2020? Non? Bon. Ben voilà, c'était juste pour savoir. L'excellente nouvelle du jour, c'est que l'inflation baisse. Enfin, ça dépend où tu te places, hein. Est-ce qu'elle baisse parce que les prix baissent ou est-ce qu'elle baisse parce que le consommateur est au bout du rouleau, en mode repli stratégique avant impact? Parce que si c'est le deuxième cas, ça veut dire que la demande s'effondre et que les vendeurs sont contraints de raboter les prix pour se débarrasser de leurs affaires et que l'économie réelle est en train de se tasser sévèrement. Mais bon, on va pas non plus jouer les rabat-joie tout de suite. On va faire comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, made in Trump, et que Powell est juste un gros lourdeau qui n'a toujours pas compris qu'il fallait baisser les taux. En tout cas, quoi qu'il en soit, chez les experts à Wall Street, on reste prudent. On évite les grandes déclarations parce que, surprise, il est toujours un peu trop tôt pour mesurer les effets des tarifs douaniers. Comme depuis 2 mois, en fait. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain pour probablement répéter qu'il est encore un tout petit peu trop tôt. En attendant, il y en a un qui n'a pas attendu bien longtemps pour donner son avis, le président lui-même, fidèle à sa méthode que l'on qualifie aujourd'hui de méthode du bulldozer. Dès la publication des chiffres du CPI, Trump a foncé sur Truth Social. Tout est en baisse, a-t-il hurlé. Essence, énergie, bouffe. Et bien sûr, il a terminé par son nouveau surnom fétiche pour Powell. Too late, Powell. Lui veut une baisse immédiate, sans détour, pendant que la Fed temporise, garde les taux dans la fourchette 4,25-4,50 et continue de jouer à l'équilibriste sur l'emploi, les prix et les incertitudes. Powell, quant à lui, doit encore parler jeudi soir. Et si c'est pour nous servir encore une fois le même discours que celui du FOMC du mois de mai, eh bien, on va pas se mentir, on sait déjà comment ça va se terminer. Et pourtant, malgré tout ça, le marché, lui, vient de repasser dans le vert depuis le début de l'année. La correction, terminée, oubliée, classée sans suite. Si tu prends les plus bas du S&P 500 et la clôture d'hier, on est à plus 22%. Plus 22%. Bull market activé. Et le sell-off d'avril, un vague souvenir d'un cauchemar qu'on a vite effacé après un mois aussi tendu qu'un trader qui aurait été short sur Nvidia. Les marchés ont relâché la pression, l'inflation un peu plus douce, apaisement tarifaire entre Washington et Pékin et FOMO général. Et à poil les shorts. Et pendant ce temps, Nvidia vole au-dessus des nuages, plus 5,6% de hausse hier et une capitalisation boursière au-delà des 3000 milliards. Pourquoi? Bah à cause d'un cocktail explosif d'un côté, un marché euphorique post-tarif de l'autre, un méga deal stratégique avec l'Arabie Saoudite, des centaines de milliers de puces prévues à la vente sur 5 ans pour un gigantesque data center de humains, une start-up saoudienne qui devient le nouveau meilleur ami de Jensen Huang. Même AMD et Broadcom s'invitent à la fête, les résultats de Nvidia sont attendus pour le 28 mai avec une petite incertitude sur le bénéfice par action, mais alors une grosse confiance dans la reprise du second semestre en termes de croissance. Huang peut remettre son blouson en cuir, Trump lui a déroulé le tapis rouge à Riyad et visiblement ce n'est que le début. Le président est en tournée et il semble bien décidé à revenir avec plus de deals que les rois mages en personne.
Nous sommes simplement à la recherche de Jésus.
Jésus? Mon mari?
Petit Jésus.
Conséquence directe de tout ça, la VIX s'est effondrée. Et quand je dis effondrée, je pèse mes mots, c'est la plus grosse chute de volatilité de toute l'histoire du VIX. Pas rien. On est passé de 60 à moins de 20 en 21 séances. Du jamais vu. Comme si la peur s'était tout simplement évaporée en un claquement de doigts. Pourquoi? Toujours les mêmes ingrédients. Trump, recul stratégique sur les tarifs, promesse de deal, sourire en façade, résultat. Les marchés sont passés de la panique à l'euphorie totale. Statistiquement, ce genre d'effondrement du VIX est souvent suivi de très bonnes performances sur le S&P 500, sur les 3, 6 et 12 mois qui suivent. Oui, mais mais les tarifs sont toujours là. L'inflation aussi. Et le risque de récession, plus que 35% selon Goldman Sachs, 40% pour les autres. Autrement dit, peut-être qu'on a évité la crise, mais le ralentissement, lui, il pourrait très bien être encore devant nous. Alors pour l'instant, Wall Street veut croire au miracle et tout va très bien. Et puis alors, on entend un peu moins ceux qui, le 5 avril au matin, nous juraient la main sur le cœur que Trump était en train de détruire l'économie mondiale et de faire s'effondrer l'Empire américain. Alors oui, c'est peut-être juste un sursis, peut-être qu'on en reparlera dans 6 mois, mais pour l'instant, tout le monde a pardonné. Et c'est en voiture Simone pour un nouveau bull market jusqu'à la prochaine alerte ou la fin des moratoires. Dans les nouvelles du jour, en dehors du deal intersidéral de Nvidia, on a eu droit à l'épisode tragique du feuilleton United Health. Oui, la série noire 2025, c'est eux. Après un plongeon de 27% en avril suite à une révision de guidance digne d'un mauvais gag, le géant de l'assurance santé vient carrément de retirer ses prévisions pour toute l'année 2025. Et paf, rideau. Et pour faire bonne mesure, le CEO Andrew Witty quitte le navire, officiellement pour des raisons personnelles, officieusement parce que c'est juste le chaos total chez United Health. Son remplaçant, Stephen Hemsley, ancien boss, recyclé en urgence pour éviter le naufrage. Et pourquoi ce bordel? Parce que la branche Medicare Advantage est en train de péter dans tous les sens, patients beaucoup plus malades que prévu, coûts qui explosent, projections qui ne tenaient que par miracle, résultat moins 17% juste hier, et tous les copains dans la même galère, hein. Humana, CVS, Cigna, bam, en mode dégringolade. United Health jure qu'on va repartir en croissance en 2026, mais sans donner le moindre chiffre, on croit donc rêver un tout petit peu, et depuis l'assassinat glaçant de Brian Thompson en décembre, dirigeant clé du groupe, l'image de la boîte est en ruine, et l'action aussi. L'affaire a d'ailleurs cristallisé une rage populaire hallucinante contre le secteur santé aux États-Unis. Heureusement, tout n'est pas noir, parce qu'il y a Coinbase qui va entrer dans le S&P 500, et si certains doutaient encore de l'intégration totale des cryptos dans le grand bain de la finance institutionnelle, et ben là, cette fois c'est réglé. Résultat, plus 24% pour Coinbase hier soir. Pendant ce temps, Microsoft coupe dans les effectifs, 3% des effectifs vont prendre la porte officiellement pour s'adapter à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Traduction, l'IA sert déjà d'excuse pour virer proprement. Et je pense qu'on risque de la réentendre celle-là. Et du côté macro, Ed Yardeni, célèbre économiste, revoit encore ses chances de récession à la baisse, dopées par le retournement de Trump, objectif S&P 500 à 6500 points d'ici décembre. Bon, c'est super tout ça, mais ils étaient où ces mecs le 5 avril? Et pendant ce temps-là, dans un autre monde, le Moyen-Orient déroule le tapis rouge pour le Messie Trump. Première étape à Riyad avec 300 milliards de deals signés sur 24 heures, objectif 600 dans 4 ans. Il lève les sanctions contre la Syrie. Ouais, sérieusement, il envoie un missile verbal à l'Iran, version dernier avertissement nucléaire. Le nouveau président syrien, un ex-islamiste repenti qui promet un plan Marshall à l'américaine pour reconstruire le pays, et tout le monde trouve ça très bien. Comme quoi, avec Trump, même les pires CV peuvent avoir droit à une seconde chance. Tant qu'ils promettent du business. Autrement, pour le show, Air Force One escorté par des F-15, tapis lavande, réception à la Gianni Versace, Elon Musk au déjeuner, Gianni Infantino à l'apéro et des milliards sur la table. Côté fond, Trump fait ce qu'il fait du mieux, du deal, du narratif musclé, du spectacle, et derrière la vitrine, toujours les mêmes bombes à retardement, Iran, Syrie, Gaza, Israël. En résumé, l'Amérique revient au Moyen-Orient, mais version Trump, donc tout est possible. Nous sommes mercredi, normalement, et on attend Too Late Powell de demain soir. Côté données macro, aujourd'hui on aura le CPI allemand et espagnol, plus 2-3 Fed people qui vont s'exprimer, Waller, Daily, probablement pour nous dire que c'est encore un peu tôt pour baisser les taux. Tiens donc. Et ce soir, il y aura Cisco qui publiera après la clôture. Le titre a pris 20% depuis début avril et ils vont probablement nous parler de quantum computing et de puces magiques, histoire d'ajouter un peu de hype tech à la sauce FOMO. Ah oui, et puis aussi le Greed and Fear Index, hein, il est passé de 4 début avril à 69 aujourd'hui. Tu parles d'un retour en grâce. À ce rythme-là, je pense sérieusement que Trump va marcher sur l'eau très bientôt, il va rentrer aux USA et il aura une démarche assurée en traînant un traîneau plein de cadeaux au travers de l'Atlantique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français pour ne rien rater des prochains épisodes. Mis à part ça, likez, partagez, commentez et nous on se retrouve demain à la même heure pour encore plus de fun sur les marchés financiers. Merci à tous d'être là, très bonne journée et à demain. Bye bye.